La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, un grain de causette consacré à une médiathèque très particulière, la médiathèque entre Dor et Allier. Un cas un peu exemplaire d'une bibliothèque troisième lieu au cœur de son territoire, à l'heure où effectivement ce concept de troisième lieu est toujours très très opérant, très important en bibliothèque. Il me paraissait pertinent de nous intéresser à cette médiathèque qui a beaucoup fait parler d'elle. Et pour ça, je suis ravi de m'entretenir aujourd'hui avec son directeur, le directeur des médiathèques entre Dor et Allier, Jean-Christophe Lacaze. Jean-Christophe Lacaze, bonjour.
Bonjour, monsieur Canetti, bonjour.
Alors, Jean-Christophe Lacaze, vous êtes né à Clermont-Ferrand, après une jeunesse passée entre la Creuse, l'Aveyron, l'Auvergne. Vous avez d'abord poursuivi des études scientifiques et des études de philosophie également. Vous vous passionnez pour la littérature française et étrangère, la BD, entre autres choses, hein, parce que vous avez beaucoup de centres d'intérêt. Vous avez découvert en tant qu'objecteur de conscience au sein du parc naturel régional du Livradois-Forez, un territoire dans lequel vous vous êtes finalement enraciné et vous avez assez vite rejoint l'association des bibliothécaires du Livradois que vous avez fini par diriger durant de nombreuses années. Et puis, en 2017, vous êtes devenu le directeur donc de cette médiathèque intercommunale entre Dor et Allier, qui a beaucoup fait parler d'elle, hein, je le disais, et dont on parle encore pour son exemplarité, tant du point de vue de la conception du projet, on va en parler, que pour son succès, qui fait pâlir de jalousie tous vos confrères. Situé donc à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Thiers, le magnifique territoire de la communauté de communes entre Dor et Allier, je dis magnifique parce que moi je le connais bien pour le fréquenter assidûment, en estivant, compose un triangle donc entre la Dor à l'est et l'Allier à l'ouest, s'étalant entre la plaine de la Limagne à l'ouest et les contreforts des monts du Forez à l'est. Cette médiathèque emblématique des troisièmes lieux a ouvert donc début juin 2017 avec un fort parti pris participatif, on va évoquer justement ce point, dans un bâtiment bioclimatique, donc qui était déjà vertueux, d'un point de vue écologique, doté d'équipements à la pointe des nouvelles technologies, d'un auditorium notamment avec très très bonne acoustique pour accueillir spectacles, concerts et conférences. La médiathèque intercommunale, elle est ouverte du mardi au samedi, ainsi que le premier dimanche de chaque mois, de 14h à 17h. On y retrouve aujourd'hui un petit peu plus de 50 000 documents, livres, revues, journaux, DVD, une collection de vinyles, un espace, le cube, qui propose aux adhérents des jeux vidéo, et la fabrique, un autre espace où plutôt on pratique là des initiations aux nouvelles technologies numériques, aux humanités digitales, parmi lesquelles la création 3D, une grainothèque également, une tisannerie et beaucoup d'autres éléments finalement très innovants. Donc à l'heure où ce modèle de troisième lieu s'est imposé comme une architecture dominante des projets de services des bibliothèques, il était vraiment important, je le disais, de remettre la focale sur un établissement exemplaire et une réussite qui ne l'est pas moins. Et j'ai donc tout plein de questions à vous poser, Monsieur Lacaze. Alors, la première, quelle était la situation du territoire en termes d'environnement culturel avant la création de cette médiathèque ?
Alors, l'environnement culturel était pauvre, on va dire ça comme ça, hein, pour aller vite. Hein, c'est-à-dire que bon, il y avait une présence de la lecture publique. On avait sur les 14 communes, 12 communes qui étaient dotées d'un point lecture. Ça allait, hein, comme le connaissent tous les collègues bibliothécaires de l'étagère d'un secrétariat de mairie, à un espace un peu plus volumineux, 100 mètres carrés sur une commune. Ça, c'était pour la lecture publique. Il n'y avait plus de cinéma sur le territoire intercommunal. Pas de saison culturelle au niveau intercommunal, pas de saison culturelle non plus au sein de la ville de Lezoux, qui est le chef-lieu de la communauté de communes. Donc en fait une proposition très pauvre, hein, en matière culturelle. Par contre, on avait un tissu associatif plutôt riche, plutôt dense. Et puis le zoo a aussi la chance d'accueillir un musée départemental de la céramique et de l'archéologie. On avait sur Jos, donc une des communes importantes de la communauté de communes, une salle de spectacle qui s'appelle la capitainerie, qui fonctionnait sous un statut associatif et d'une manière, on va dire, propre à la capitainerie, donc sans réellement une programmation régulière à laquelle le public pouvait adhérer régulièrement. Voilà en gros le paysage culturel. Donc après, on ajoute, hein, vous l'avez dit dans la présentation, on est situé entre Clermont et Thiers, donc avec aussi une population qui fréquentait les différentes salles de spectacle, notamment de la CAM, hein, de la communauté urbaine de Clermont-Ferrand, de la métropole maintenant, pardon, et puis qui allait aussi à Thiers, jusqu'à Cournon même, hein, effectivement. Donc l'offre culturelle sur le territoire entre Doréalie était faible, hein, très faible.
Alors il faut rappeler qu'on est quand même évidemment dans un territoire qui est essentiellement rural, même s'il y a bien sûr cette population un peu nouvelle de néo-ruraux, vous l'avez dit, hein, qui habite à la campagne et qui travaille à Clermont. Mais on est quand même dans une communauté de communes qui fait 19 000 habitants, ce qui rend d'autant plus méritoire cette initiative. Alors les élus de votre communauté de communes, entre Dor et Allier, ont convoqué en amont du projet un comité de pilotage qui a abouti à deux décisions très très importantes. L'embauche d'un chef de projet, bon, en l'occurrence vous-même, pour suivre la réalisation et la sollicitation aussi des habitants afin de sonder leurs besoins. Donc quand on parle de projet participatif, hein, c'est pas un vain mot. Peut-on dire que c'est un des éléments clés du succès de l'établissement que vous dirigez ?
Certainement, certainement. Je pense qu'après, c'est réellement une continuité hein, qui, lorsque les élus ont décidé la construction d'un équipement culturel, Madame Gagnadre, la présidente de l'intercommunalité à l'époque, avait eu cette... Alors, je mélange à chaque fois que j'en parle les deux adjectifs, hein, enfin, deux qualificatifs, c'est une intelligence et une humilité, c'est-à-dire avoir compris qu'il fallait effectivement, sur ce territoire-là, avec une population grandissante, qu'il fallait construire un équipement culturel. Mais j'ajoute toujours aussi humilité, parce qu'elle n'a pas imposé, en fait... la nature de l'équipement, même si effectivement une idée de médiathèque était fortement sous-jacente, pardon, mais elle n'a pas dit, voilà, ça sera une médiathèque qui fera 400 mètres carrés et qui aura tel ou tel service à proposer à la population. Elle a plutôt ouvert très rapidement les portes, hein, ce qui a permis effectivement de solliciter très tôt dans la réflexion sur le projet un comité de pilotage qui a très bien travaillé. Donc là, un comité de pilotage plutôt classique, hein, État, département, région. Et puis il y avait quelques autres partenaires associatifs qui avaient été associés à la démarche pour effectivement prendre deux décisions fortes. Hein, donc la première, de recruter un chef de projet quasiment dès le lancement de l'opération. Et puis, vu que le travail du comité de pilotage était très très bien passé, qu'avis, consultation, réflexion avaient été prises auprès des élus, auprès des professionnels, auprès du tissu associatif et éducatif. En fait, c'est poser la question de se dire, mais en fait, un équipement culturel public hein, qui va voir le jour, qui est-ce qui l'utilise en fait ? Ce sont les habitants et qu'on appelle après des usagers, des utilisateurs, des clients, comme on veut. Et il serait peut-être bon en fait aussi de les interroger très tôt pour voir la forme, le contenu, l'ambition, la nature des services, la nature des usages, vu qu'on a parlé d'usages beaucoup dans le cadre du projet de la médiathèque entre Doré et Allier. Et effectivement, assez rapidement, la concordance en fait, de ces deux volontés, donc recruter quelqu'un très tôt pour suivre le programme et associer très tôt à la réflexion les usagers, sont certainement des raisons du succès de l'établissement auquel moi j'ai pris l'habitude d'en rajouter une, c'est-à-dire que cette consultation des habitants a commencé à un moment donné, oui, certes, hein, à un moment donné. Ça s'est produit dans le cadre d'une résidence qui a été pilotée par ce qu'on appelle la 27e région, hein, qui est une structure associative qui apporte appui et compétences aux collectivités dans le cadre d'une réflexion autour du design de service, comme on dit maintenant, mais qui a eu un début et une fin, cette résidence-là, qui a donné naissance à ce qu'on a appelé le plan des usages, donc les usages de cette future médiathèque vue du point de vue des habitants. Mais surtout, Et avec donc ce chef de projet, cette réflexion menée pendant la résidence, durant 3 ans qui ont suivi donc la résidence jusqu'à l'ouverture du bâtiment, il y a eu du travail en continu avec le territoire. Donc qu'il s'agisse à nouveau des bénévoles des points lecture, qu'il s'agisse des collégiens, qu'il s'agisse du tissu associatif, qu'il s'agisse de mobiliser les habitants sur des projets qui n'avaient peut-être rien à voir avec le livre de lecture et qui sollicitaient leurs compétences et leur savoir-faire. Et à chaque fois, pour les amener à prendre conscience qu'un équipement nouveau allait arriver sur le territoire, que cet équipement allait être le leur, et qu'ils allaient, effectivement, s'ils le souhaitaient, pouvoir le dessiner, le designer, et y apporter richesse et contenu. Voilà.
Alors effectivement, ça c'est très intéressant. Moi, je pense avec d'autres que la grande beauté des bibliothèques, c'est justement que leurs missions n'ont jamais été fixées, à l'heure où le législateur, là d'ailleurs, en ce moment même, est en train de s'intéresser à peut-être une loi sur les bibliothèques. Moi, je suis toujours un petit peu circonspect parce que, justement, l'exemple qui est le vôtre montre bien que, ben, avant tout, la bibliothèque, c'est sans doute un petit peu la maison commune de la République. Et que c'est très intéressant de la concevoir avec une grande souplesse et sans idées préconçues. Alors, l'un des points forts, justement, du projet de la médiathèque de Lezoux, c'est le partage de compétences, d'animation, d'exposition, en lien direct, vous l'avez évoqué, avec la population du territoire. Comment organise-t-on concrètement ces contributions directes des usagers? Dans différentes interviews, vous parlez d'ailleurs de construction patiente avec les gens. Pourriez-vous développer cette idée pour nos auditeurs?
Je vais essayer, du coup. J'aime bien cette discussion et ce rapport au temps, en fait. Hein. Enfin, tout projet de construction architecturale intègre une dimension temporelle. Hein. Généralement, les demandes de financement, l'attribution des crédits sont prévues pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les opérations doivent être soldées à ce moment-là. Moi, j'ai pris un peu l'habitude, à tort ou à raison, je ne sais pas, hein, mais de dire que un projet, enfin, s'inscrit réellement dans la durée. Lorsque des élus décident de construire un équipement, alors en l'occurrence ici un équipement culturel, c'est pas un équipement qui est construit pour une mandature, c'est un équipement qui est construit pour 3, 4, 5, 10, 20, 30 mandatures, je ne sais pas, qui est inscrit pour durer dans le temps. Et que du coup, ben oui, ce rapport au temps, la patience qu'il faut pour le construire, je pense que on est sur un projet ici à Lezoux qui a coûté environ 6 millions d'euros. Donc voilà, je considère que ça mérite un peu de temps pour les dépenser, que si on prend un peu plus de temps que ce qui était prévu pour discuter un peu plus profondément avec l'architecte, avec les artisans, avec les habitants, ben, je considère que c'est pas du temps perdu parce que le projet est amené à durer et à répondre concrètement à ce qu'était une attente, une demande, un usage qui avait émergé du territoire. Et revenir juste sur la première partie de votre interrogation, ce partage de compétences, parce que ça me semble très important et c'est aussi là où il faut être patient. Tout bon équipement culturel, enfin surtout toute médiathèque, hein, a la chance de pouvoir proposer du coup aux habitants du territoire via les crédits de la collectivité, ben, un accès à des collections, un accès à une programmation, un accès à certains services, hein, différents services. Mais dans le cadre de cette consultation auprès des usagers, on s'était livré un calcul tout simple. Hein. Comme vous l'avez rappelé, la médiathèque tout de suite accueille et son réseau accueille environ 50 000 références. On était parti sur l'idée qu'il y avait des livres en fait chez tous les habitants du territoire. Et en fait, on s'était dit qu'en moyenne, il y avait plus d'1 million de livres sur le territoire entre Dore et Allier. Donc vous imaginez bien que, aussi grande soit-elle, la médiathèque ne pourrait jamais accueillir toutes ces collections. Donc de quelle manière on pouvait aller chercher cette richesse du territoire pour petit à petit la ramener en partie, ponctuellement, temporairement, dans les murs du réseau, pour que le plus grand nombre puisse en profiter et puisse avoir accès à cette richesse du territoire. Et faire ça avec les gens, amener les gens à venir partager un savoir-faire, venir partager une compétence, venir partager une richesse, venir partager des collections, venir partager des objets, eh ben ça se travaille dans le temps. Il faut prendre le temps, oui, d'aller voir les gens, de discuter avec eux, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, qu'eux écoutent ce qu'on a à leur dire, et d'essayer de trouver ce terrain d'entente, hein, qui va faire qu'on retrouve ce plaisir de retravailler avec d'autres, de renouer du lien avec d'autres et de partager ce que l'on a aussi de plus cher. C'est en ce sens-là que pour moi, j'insiste beaucoup sur cette patience et sur ce temps. Pour conclure sur ce point-là, j'ai toujours le souvenir d'une conversation que j'avais eue avec une de mes collègues qui avait pris son poste, je ne sais plus, on devait être en 2014, hein, dans la montée en charge de la construction d'équipes et du programme. Et quand on s'est mis à travailler concrètement sur donc les 13 autres communes, hein, de la communauté de communes, pas uniquement sur le projet de Lezoux, mais sur les 13 autres points lecture que les élus souhaitaient être aussi dynamiques que la centrale, cette collègue rentrait d'une réunion qu'elle avait fait à Séchal, je crois, donc petite commune, qui me dit, vous savez Jean-Christophe, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, hein. Je suis resté 3h30 avec l'équipe de bénévoles, mais oh là là, on a beaucoup parlé, on a bu le thé, on a mangé des gâteaux, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'aménagement de la bibliothèque. Ben, je lui ai dit, écoutez, je pense que vous avez fait les 90% du travail, quoi. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à tisser ce lien, et voilà, et ce lien existe encore, et puis l'aménagement de la bibliothèque, le rangement des collections, viendra que plus tard, et c'est pas très grave en fait. Hein. Du coup, le lien, le réseau était en train de prendre forme et corps, et c'est ce qui est à mes yeux est le plus important. Et effectivement, c'est une question de temps, et il faut prendre ce temps-là, oui, effectivement.
Alors, justement, en lien avec tout ce que vous venez de dire, finalement, les collections semblent presque secondaires dans votre établissement. Diriez-vous que ces dernières ne sont plus centrales dans un projet de troisième lieu ?
Non. Non, non, nos collections, je pense qu'il faut plus travailler sur le sens de collection, en fait. Je pense qu'effectivement, les collections restent centrales dans notre programme et dans notre projet. Mais je pense qu'il faut entendre beaucoup plus de choses sous le mot de collection, en fait, tout simplement. Si vous prenez le plan des usages qui a été dessiné au sortir de la résidence de la 27e région, vous apercevrez qu'effectivement, les collections telles qu'on le conçoit, nous, bibliothécaires, dans ce plan des usages, représente effectivement une toute petite partie de l'espace qui est consacré à la médiathèque. À Lezoux, les collections et sur le réseau, non, représentent une part très très importante physiquement au sein de l'équipement. Mais voilà, elles sont beaucoup plus larges que celles que l'on apporte classiquement. Il y a la collection nous on a les héros de la médiathèque, hein, qui sont une foule de compétences qui viennent s'ajouter à nos collections. On a les collections des habitants qui viennent intégrer aussi ponctuellement nos murs. Voilà, on a différentes choses, on a différents savoir-faire qui viennent enrichir ces collections. Donc je pense qu'on est plus sur une manière d'appréhender cette collection, hein, la collection chère aux bibliothèques, hein, c'est-à-dire voilà, on procède à l'acquisition de ces collections, on prend connaissance des documents qu'on a achetés, et ensuite on va les proposer au public. Et en fait, à Lezoux, on continue de faire ce travail-là. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et je pense que je reste très proche, moi, de la charte de l'UNESCO des bibliothèques. Hein. Cette volonté, ce rôle qu'ont les bibliothèques d'amener au plus près du territoire un accès à la connaissance, à l'information et au savoir. Donc, on ne déroge pas à cette règle-là. Et je ne voudrais pas qu'on déroge à cette règle-là. Mais voilà, on élargit un peu cette notion de collection. Et le bibliothécaire, du coup, essaie de faire ce pas de côté, où son cœur de métier n'est pas uniquement les collections, mais voilà, il y a cette place de la population et des habitants dans le projet d'établissement qui vient enrichir la donnée initiale, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais
finalement, en vous écoutant, je me dis que vous illustrez bien finalement ce que disait feu Bertrand Calange, à savoir que la collection, il fallait la concevoir un petit peu dans sa globalité, et puis vous rajoutez finalement à la collection physique, à la collection documentaire, la dimension humaine qui est justement centrale dans les bibliothèques. Enfin, si je vous ai bien compris, hein, voilà.
Vous m'avez bien compris.
Alors, on parle beaucoup de la médiathèque centrale de Lezoux, mais moins de son réseau à l'échelle donc du territoire communautaire, qui est pourtant constitué, vous l'avez dit, de 13 sites. Est-ce que les expériences qui ont été conduites dans la médiathèque tête de réseau ont influencé les autres médiathèques du territoire ?
Quand vous parlez du coup d'autres médiathèques du territoire, c'est-à-dire vous parlez de médiathèques du territoire intercommunal ou au-delà du coup ?
Les médiathèques du territoire intercommunal.
Alors, mais je pense que là-dessus du coup...
Ou les points lecture, hein, bien sûr,
ouais,
ou les
voilà,
petits points
donc,
lecture, voilà.
Alors, du coup, il y a eu hein, dans le projet, effectivement, on a beaucoup parlé de la construction de la centrale à Lezoux, hein, mais on est avant tout sur un réseau de médiathèques. Hein, donc effectivement, on a la chance d'avoir un joli bâtiment conséquent avec plein d'équipements ici. Mais on parle d'un réseau. Du coup, à aucun moment, les points médiathèques du territoire, d'une part, sont laissés de côté, et toutes participent à la même ambition que la centrale. Hein. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de Lezoux parce que l'activité, quand on a ouvert nos portes, s'est beaucoup concentrée sur l'équipement de Lezoux. On avait travaillé, j'avais travaillé après avec quelques collègues, trois collègues jusqu'à l'ouverture du bâtiment. Les autres nous ont rejoints pour l'ouverture. On avait travaillé pendant quasiment 3 ans et demi, et moi un peu plus, hors les murs. C'est-à-dire que nous n'avions pas de lieu. Donc la genèse du projet, son enracinement sur le territoire, est parti des points médiathèques. Il n'est pas parti de la centrale, il est parti des points médiathèques et de cette philosophie qu'on avait envie d'impulser et d'inscrire sur le territoire intercommunal. Et ça, ça se traduit et ça se construit parce qu'on avait la chance d'avoir eu des équipes de bénévoles motivées, volontaires, avec lesquelles on a travaillé. Donc effectivement, ce qui se passe à la centrale ne se passe certainement pas dans tous les petits points médiathèques, mais nos héros, par exemple, s'exportent régulièrement dans les points médiathèques du territoire. Un affûtage de couteaux, par exemple, c'est un des ateliers qu'on propose dans la médiathèque, est fait à Lezoux, mais se fait aussi sur le territoire. Donc la philosophie générale est véhiculée sur l'ensemble des points lecture, avec les particularités des points lecture, c'est-à-dire qu'on ne fera pas un spectacle à la bibliothèque de Séchal qui fait 15 mètres carrés, alors qu'on pourra le faire effectivement à Lezoux, mais à chaque fois, on essaie d'adapter les propositions au plus proche du territoire pour qu'effectivement, on reste sur des principes moi, qui me sont chers, aller porter l'information, la connaissance et le savoir au plus près des territoires, oui, bien sûr. Donc, non, on parle bien d'un réseau, même si on a longtemps mis la focale sur la centrale. Oui.
Alors, la médiathèque donc entre Dor et Allier, dispose d'un taux d'impact, d'un taux de pénétration, comme on dit dans le métier, qui avoisine les 40%, là où la moyenne nationale se situe plus à 15, donc 3 à 4 fois supérieure à ce qu'on trouve partout ailleurs. Comment parvenez-vous à maintenir cette exigence d'adaptabilité et de créativité dans le troisième lieu que vous avez contribué à bâtir? En bref, comment on se renouvelle à partir d'un tel projet?
Alors, j'ai envie de répondre à cette question-là. Écoutez, on a quasiment 20 000 habitants sur le territoire intercommunal, donc on a une vraie population qui permet le renouvellement, en fait. Voilà, donc il y a ce travail auprès de la population qui continue, qui perdure. C'est-à-dire, il ne s'est pas arrêté le jour où on a ouvert le bâtiment. C'est quelque chose qu'on mène au quotidien et je pense qu'il se mène encore davantage, peut-être, qu'il ne se menait à l'origine et en 2017. Je crois qu'on est encore en train d'accentuer cette pénétration au plus près des communes de la collectivité. Et du coup, en fait, le renouvellement, il vient des gens que l'on rencontre. Oui, je veux pas dire que tous les jours, mais presque, en fait. On va rencontrer une personne nouvelle qui va nous dire « j'aimerais bien pouvoir faire ça avec vous ». Eh ben voilà, c'est parti, quoi. Donc, on se renouvelle en ce sens-là en permanence. Ensuite, il y a un travail que moi, j'essaie de conduire avec l'équipe au quotidien, c'est-à-dire que le projet d'établissement qui est celui qui a conduit à la construction de la médiathèque est un projet qui est en permanence en train d'évoluer. Voilà, c'est-à-dire il y a un guide, il y a un cadre. Mais ce cadre est fait pour s'élargir. Donc cette année, par exemple 2021, on se réinterroge au niveau du service en totalité. Des journées de travail sont fléchées pour effectivement que l'équipe, tous ensemble, on réfléchisse à ce qui se passe, comment ça se passe et comment ça peut se passer demain. Et puis il y a le travail aussi qu'on fait ensemble, donc sur nos postures dans le bâtiment. La notion d'accueil est quelque chose qui, pour nous, est essentiel, fondamental. On y travaille régulièrement. Je pense que le public est content de voir des bibliothécaires souriants. Voilà, donc ça fait partie du métier et on travaille effectivement sur ces notions d'accueil. Et puis le dernier facteur, on y reviendra peut-être un peu plus tard ensemble, c'est aussi la gratuité, qui est une des raisons pour laquelle la fréquentation de ce bâtiment est aussi forte. Je suis en train de terminer le rapport d'activité. Le zoo, en fait, représente 6 200 habitants. 42% de cette population est inscrite à la médiathèque, ce qui est énorme, en fait.
C'est énorme. Oui.
Et du coup, voilà, les chiffres sont tout frais. Du coup, on est en train de faire parler un peu notre SIGB pour finir, pour clôturer l'année 2020. Effectivement, on a des données comme ça, même les petites communes qui émanent toutes entre 29 et 30% d'inscription au réseau, quoi. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur cette proximité, sur ces notions d'accueil de la population, Et puis surtout que cette population se sente dans ce lieu-là. Alors, troisième lieu ou pas troisième lieu, j'en sais rien, mais on a longtemps parlé de ces lieux intermédiaires entre le travail et le chez-soi. Et ben voilà, peut-être que la médiathèque de Lezoux et son réseau participe à ça. On a beaucoup de gens qui nous disent, en fait, voilà, on vient une fois, et puis finalement on aime revenir, et puis on aime rester, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a dit ça pour... On dit ça pour d'autres choses, hein, cet alignement d'étoiles à un moment donné où voilà, il y a un projet qui a vu le jour, on a un architecte qui a aussi bien traduit, je pense, ce que pouvait être dans l'équipement, hein, dans son incarnation architecturale, ce que pouvait être l'équipement. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui font que les choses se sont plutôt bien passées. Et qu'on perdure encore actuellement, bien évidemment, on continue d'y travailler fortement à ces notions d'accueil, ouais, de population, effectivement. Voilà.
Oui, alors vous avez presque répondu à la question que j'allais vous poser. Je vais quand même vous la poser pour Dominique Lahari, qui est un bibliothécaire que j'admire beaucoup à titre personnel, et pour beaucoup d'autres professionnels avec lui. L'optimum, en effet, c'est la gratuité. Alors j'allais vous demander, mais vous avez presque répondu déjà à cette question. Partagez-vous cette opinion? Et si oui, en quoi cette disposition, qui pourrait à première vue passer pour anodine, fait-elle sens? Hein, là, c'est presque une question, en tout cas que je vous pose pour que les élus, peut-être d'autres territoires, entendent ce que vous avez à dire là-dessus.
Alors il peut formuler une réponse qui est plutôt sèche, quoi. C'est-à-dire que représente. Je ne sais pas si on se met d'accord sur un coût d'adhésion, un coût d'inscription à la bibliothèque, ce que représente la gestion et l'encaissement de ces fonds par rapport au travail qu'on peut demander aux collègues. Donc voilà, je suis toujours réservé par rapport à ça. Mais c'est surtout moi où j'aime plutôt mettre l'accent, c'est que, alors, on est sur des équipements, et je pense que ça c'est pour moi quelque chose de très important, qui sont construits sur un territoire. Ce qui s'est passé à Lezoux ne se passera pas, peut-être pas de la même manière à 100-150 km d'ici, parce que l'histoire du territoire, la sociologie du territoire, la proximité avec d'autres espaces, d'autres services n'est pas la même. Et du coup, voilà, Lezoux est inscrit aussi sur un territoire particulier avec sa sociologie, avec son histoire, avec sa population. Et la population de ce territoire-là n'est pas une population qui a été habituée aux hautes études, qui reste une population très ouvrière, très agricole, et qui n'a pas été habituée à fréquenter, on va dire, dans leur ensemble, les lieux culturels. Et on sait, et là, c'est pas moi qui le dis, hein, les enquêtes régulières du ministère de la Culture sur la fréquentation des équipements culturels le montrent à chaque fois. On a du mal, quand je dis le « on », hein, je parle de nous tous, hein, à franchir les paliers, les seuils, ben, des musées, des librairies, des bibliothèques, des salles de spectacle. On parle toujours du taux de fréquentation des bibliothèques, mais est-ce qu'on parle des taux de fréquentation de salles de spectacle type opéra? Est-ce qu'on en parle beaucoup pour savoir en fait quel type de population fréquente ces lieux-là? Alors je ne dis pas qu'il faut mettre la totalité de cet accès à la culture gratuite, hein, mais ce que je sais par rapport à ce qui a été vécu ici, que on le voit qu'on est arrivé à toucher une population, c'est, voilà, ça se voit, qui ne fréquentait pas ces équipements-là. Ça c'est clair. Quand on a commencé, bien avant l'ouverture du bâtiment, on a travaillé pendant plus d'un an et demi sur un projet autour du tricot. On a habillé la ville avec du tricot. Et cet habillage de mobilier urbain a été fait par une cinquantaine de personnes qu'on avait été chercher sur tout le territoire, qui étaient des clubs de couturiers, couturières, de tricoteuses, tricoteuses, patchwork, broderie, etc. Et qui n'étaient pas des gens qui... naturellement été attiré par la fréquentation d'une bibliothèque ou d'un lieu culturel. Mais parce que on a été sollicité cette population autrement que par la question du livre et de la lecture, mais bien effectivement parce que par une entrée qui leur était chère, c'est-à-dire là en l'occurrence ce travail autour de la laine, du tricot, des tissus, etc., etc. Donc par une mise en valeur de leurs compétences, eh ben oui, ces gens sont venus dans le bâtiment et ils sont rentrés naturellement, parce que très tôt, ça a été un lieu où ils se sont sentis bien, et le club de tricot et les projets participatifs autour du tissu, il y en a tous les ans au sein de l'équipement. Donc voilà, et je pense que cet ensemble-là, aller chercher les gens par leurs compétences, faire que l'accès à ces services-là soit des services gratuits, facilite une population à prendre plaisir à venir dans des lieux qu'ils ne s'autorisaient pas à fréquenter avant. Après, moi, je ne veux pas faire de raccourci, hein, mais bon, une inscription à 15 euros pour une famille de 5 personnes, 15 euros par personne, je ne suis pas convaincu que tout le monde va s'inscrire à la bibliothèque, voilà, tout simplement. Bon, alors est-ce qu'il faut pour autant... Enfin, moi, vous le sentez bien, je suis un partisan de la gratuité, oui, ça me semble... voilà. Et puis, comme on dit aussi, mais là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, hein, nos équipements culturels sont construits avec l'impôt du contribuable. Voilà.
Exactement.
Donc, aussi, c'est
une fausse gratuité, voilà. Absolument.
Voilà, donc voilà, c'est, je suis désolé, les gens ont aussi payé quoi sur pour ce service-là, et je pense qu'un élu, parce que pour l'avoir entendu de la part de mes élus, les élus sont contents d'entendre, ben on est content de savoir où sont passés nos impôts quoi. Voilà, et ça, je pense que effectivement, alors là non plus, hein, je fais pas du populisme, mais je pense que c'est des choses importantes, quoi. Du coup, d'avoir aussi un retour de la population qui est satisfaite quelque part de l'investissement qui a été fait de ses impôts, quoi, et qui le voit concrètement. Et je pense qu'un élu qui a porté un projet comme voilà des centaines d'élus, des milliers d'élus en portent au quotidien, sont contents aussi d'avoir un retour de population qui leur dit, ben écoutez, c'est bien ce que vous avez fait, et en plus c'est gratuit, on peut y aller, c'est super. Voilà. Voilà, il y a peut-être une autre forme d'équilibre à retrouver, mais je sais aussi que j'ai toujours la discussion avec aussi mes élus sur voilà sur cette question de est-ce qu'il faut vraiment que tout soit gratuit, bien évidemment ça, et je pense que c'est pas encore voilà que la question reste quelque part encore entière, mais pour ce qui a été du réseau des médiathèques entre deux alliés, la discussion a eu lieu au sein de l'équipe en amont de l'ouverture, bon mais voilà c'est bien tombé, on était tous d'accord sur la gratuité. Et au moment de l'ouverture, donc là, c'était M. Monneron qui présidait la collectivité, voilà, a proposé rapidement, sans qu'il y ait débat éternel et conflit, à ses collègues élus, la gratuité de l'accès aux services. Et ils ont tous dit oui. Donc voilà, il y avait aussi un sentiment certainement que cette gratuité permettrait au plus grand nombre d'accéder à ces services-là, oui. Pas si j'ai répondu du coup à votre question.
Bah, absolument, absolument. Il faut rappeler effectivement que la bibliothèque est un service public administratif et qu'on ne se pose pas la question par ailleurs de la gratuité des soins dans les hôpitaux publics, de la gratuité de l'enseignement dans les écoles. Finalement, il y a encore une fois une vraie logique à ce que, en tout cas, un établissement aussi important, aussi crucial qu'une bibliothèque publique le soit aussi. Alors, pour conclure, Jean-Christophe Lacasse, parce qu'on a explosé les compteurs en termes de timing de cette petite émission, là, c'est presque le collègue directeur de bibliothèque qui vous pose la question. Vous avez beaucoup innové du point de vue donc de la participation citoyenne, on l'a vu, et in fine des services rendus. Comment est-ce qu'on manage une équipe d'un établissement si innovant et hybride ? Est-ce qu'on doit revoir aussi sa façon de concevoir le management des équipes ?
Je sais pas, je sais pas si je suis là non plus un bon exemple, hein, et pour dire dire ce qu'on a fait, peut-être dire ce qu'il faut faire, je ne sais pas, j'aurai jamais cette prétention, hein. Je pense que le premier travail là-dessus, c'est un travail collectif, c'est-à-dire que clairement, effectivement, pour moi, cette dimension participative s'est affichée dès 2012 quand les élus m'ont recruté, mais elle s'affiche aussi au sein de mon équipe, hein, c'est-à-dire je considère qu'on fait mieux les choses quand on les fait avec les gens que contre les gens. Donc voilà. Et à ce moment-là, la prise de décision, moi, me semble plus utile, plus pertinente, plus rapidement mise en œuvre et en place lorsque le pourquoi du comment est décidé par le collectif et de manière très très ouverte et très libre. Alors vous dire que moi j'ai un management horizontal, j'en sais rien. Mais je suis effectivement plutôt éloigné du modèle descendant, ça c'est clair. On a une organisation par pôle au sein de l'équipement, avec des responsables de pôle, je dis bien des responsables de pôle. La direction du bâtiment est une direction, alors on va pas dire encore collégiale, mais peut-être qu'on y arrivera, hein. Nous sommes quatre à nous réunir toutes les semaines sur voilà, les orientations à mettre en place et à mettre en œuvre pour l'équipement, qui sont ensuite débattues en réunion de service hebdomadaire. Donc voilà, il y a une véritable volonté de réfléchir aussi sur ben, voilà, des modes de gouvernance un peu différents, tant nous sur notre problématique interne, hein, de professionnels, mais aussi pourquoi pas de l'étendre auprès de nos élus, c'est-à-dire d'arriver à créer d'autres types de gouvernance, hein, qui peuvent mêler du coup usagers, habitants, élus, professionnel pour réfléchir autrement au process décisionnel et à ce qui peut être mis en place au profit du plus grand nombre. Donc, je ne sais pas si tout ça sont des questions de management. Hein. Moi, je ne sais rien si je fais du management. Voilà, j'aime travailler avec les gens, j'aime travailler avec mes collègues, j'aime travailler avec les habitants et j'aime qu'on arrive à discuter et à partager des choses. Donc, j'aime pas trop le modèle descendant. Voilà, je ne sais pas si je suis clair là-dedans, là-dessus.
Oui,
mais
oui,
voilà,
tout à fait.
Voilà, donc on est sur un modèle, oui, où effectivement les discussions sont très ouvertes ici, oui.
Ben écoutez, Jean-Christophe Lacaze, merci mille fois d'avoir accepté de répondre à cet entretien et puis de nous avoir un petit peu éclairé sur cette médiathèque qui est encore, moi, pour moi, tout à fait voilà emblématique de ce que devrait être un tiers-lieu, parce qu'on parle beaucoup des tiers-lieux, mais là, vraiment, il y a un exemple à voir, à découvrir. Donc, j'engage tous nos auditeurs, si vous passez à côté de Clermont, d'aller d'abord visiter cette belle communauté de communes entre Dor et Allier. Moi, je connais surtout Moissard, on a eu l'occasion d'en discuter. Vous parlez de Séchal, mais il y a vraiment voilà, des coins magnifiques dans ce territoire. Et si vous y passez, bien sûr, ne manquez pas de vous arrêter à la médiathèque entre Dor et Allier de Lezoux pour vous inspirer, en tout cas, les bibliothécaires de son fonctionnement. Merci Jean-Christophe Lacaze.
Merci beaucoup Monsieur Canuti, au plaisir, merci beaucoup.
Voilà, à très bientôt.
Ce
temps de grain de causette vous était proposé par la e-communauté culture et territoire que vous pouvez retrouver sur le web du CNFPT. Et moi je vous dis à très bientôt donc sur Fréquence T, la web radio des territoriaux. À très bientôt.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.